accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. C'est un cauchemar digne du 19e siècle que des enfants suisses ont vécu jusque dans les années 80-1980. Des milliers d'enfants arrachés à leurs parents au motif qu'ils étaient pauvres. Ils ont été placés de force dans des institutions ou chez des paysans comme main d'œuvre bon marché, souvent maltraités, humiliés, battus, même violés. Aujourd'hui, les victimes de ce qu'on appelle ces mesures de coercition à des fins d'assistance réclament réparation. La Suisse lève le voile sur cette période sombre et reconnaît leur souffrance. Un fonds d'indemnisation a été constitué. C'est un reportage de Katia Michel.
Encore maintenant, des fois, j'ai des peurs, j'ai toujours cette peur-là. J'ai beaucoup de problèmes psychologiques. Je repense à toute mon enfance et tout. J'arrête pas d'y penser. Le matin, je me réveille, tac, tac, je pense à ça, je pense à ci. Je l'analyse toute ma vie.
Joël Uldry a 60 ans aujourd'hui. Le temps a passé, mais les traumatismes de son enfance le hantent toujours. Nous l'avons rencontré chez lui, au cinquième étage d'un immeuble de la banlieue lausannoise.
Bonjour.
Bonjour.
On a...
Abandonné par son père, Joël est dans un premier temps élevé par ses arrière-grands-parents. Jugé trop vieux pour s'occuper de lui, Joël est alors placé à l'âge de 10 ans dans plusieurs familles de paysans où il sera exploité, humilié et maltraité.
Pour moi, c'était normal. J'ai toujours connu ça. Me lever à 4h le matin, faire ci, faire ça. Allumer les fourneaux, préparer de l'eau chaude pour les veaux, donner à manger aux veaux, sortir les fumiers. On devait porter des bidons d'eau pour aller les abreuver. Tout ça, quoi. Moralement, physiquement et tout. C'est très dur.
Joël se ronge les ongles et fume cigarette sur cigarette. Visiblement nerveux à l'évocation de ce passé si lourd et encore si présent.
J'ai rien pu faire quand vous savez pas ni écrire ni lire. Je sais un peu écrire, mais je serais pas capable d'écrire une lettre sans faute et tout. Ça m'a bloqué toute ma vie. J'ai rien pu faire dans ma vie. J'ai pas pu faire d'apprentissage ou quoi que ce soit. J'ai toujours été employé à gauche, à droite comme ça. Les gens ont profité de moi et tout. Puis voilà, quoi. Vu que j'ai pas fait d'apprentissage, j'avais pas de papier. Tout ça, ça a freiné. Alors, on m'a toujours exploité partout. Puis moi, je suis pas stable. J'ai tellement changé dans mon enfance, à gauche, à droite, ici, là. Je suis pas stable. J'ai jamais pu avoir un travail, rester à quelque part. Je peux pas. Je suis pas stable. Ça me fait peur, ça.
Entre 1800 et 1980, on estime à 100 000 le nombre d'enfants élevés à la dure dans des institutions religieuses ou contraints au travail forcé. À l'époque, les pauvres inquiétaient les bourgeois. C'est l'une des explications avancées par l'historien Pierre Avanzino de cette politique familiale très répressive.
Début du 19e, on est quand même petit à petit dans des révoltes des classes laborieuses. Il va y avoir le Parti Socialiste, la défense des ouvriers, l'émergence des syndicats. Et du côté des bourgeois, il y a quand même une peur de la sédition de ce milieu-là. Donc il faut le contrôler. C'est aussi un des aspects, un des volets de cette pédagogie-là. Est-ce qu'on a beaucoup pratiqué au 19e jusqu'au premier quart du 20e siècle? C'est la mise en vente, comment dire, mise aux enchères à la baisse sur la place publique de ces enfants-là. C'est une manière de se débarrasser d'eux et de les mettre chez des paysans qui les faisaient travailler dans des conditions extrêmes.
Longtemps, les victimes ont gardé ce lourd passé enfoui en eux. Mais ces dernières années, les langues se délient. Clément Vielli a lui aussi été arraché à sa mère et placé dans différents orphelinats. Aujourd'hui, il préside l'association de défense des enfants placés, Agir pour la dignité.
On était très punis, très frappés. On nous réveillait la nuit, on nous taper avec des tap-tapis pour les, ces tap-tapis en forme de pétales, là. On a vraiment souffert. C'était énorme. Et on a eu du retard à l'école, on se faisait taper sur les doigts, à l'école parce qu'on s'endormait, on était fatigué, on n'y pouvait rien, quoi. Puis tout ça a engendré un manque de connaissances et de savoir. C'est là où je mène le combat parce que on a tellement maltraité les enfants que ça fait boule de neige toute leur vie. Il y a beaucoup de gens qui sont illettrés, qui sont analphabètes, c'est terrible, quoi. Moi les gens que j'ai vus aujourd'hui.
Sous la pression des associations de victimes, la Suisse entame alors un douloureux travail de mémoire. Elle mandate une commission d'historiens. Le pays redécouvre avec effroi les heures sombres de cette politique sociale. Des mères célibataires jetées en prison, stérilisation ou avortement forcé, internement abusif. En 2013, la Suisse présente ses excuses officielles aux victimes de ces mesures de coercition par la voix de Simonetta Sommaruga, la ministre de la Justice.
Au nom du gouvernement suisse, sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les souffrances que vous ont été infligées.
En plus de cette reconnaissance officielle, la Suisse débloque un fonds d'indemnisation de 300 millions de francs, soit environ 25 000 francs pour chacune des victimes encore en vie. Une faible compensation, estime Clément Vielli.
20 ans d'institution, privation des parents, abus sexuels, malnutrition, mauvaise connaissance scolaire, institution délabrée dans certains endroits où on était. Et vous voulez qu'on vous donne 25 000 francs pour 20 ans pour ça ? Non, mais ils se moquent du monde, quoi. Et après, vous pouvez encore rajouter les mains de bon marché. Ils ont, combien d'enfants, de jeunes filles ont travaillé pour l'après-guerre en 48 pour coudre tous les uniformes de l'armée. Ils ont fait ça. Ils n'ont jamais vu un sou. Et puis après, on a les filles au père. C'est pareil, ces jeunes filles qui ont travaillé dans les familles, chez les paysans, la lessive, la manger, tout, quoi. C'est inhumain.
Les mesures de privation de liberté à des fins d'assistance ont été abandonnées en 1981, quelques années après l'adhésion de la Suisse à la Cour européenne des droits de l'homme. D'autres pays européens ont également mené des politiques enfantines similaires. C'est le cas de l'Espagne, de l'Irlande, la Suède ou encore l'Allemagne. En 2014, l'État français avait également présenté ses excuses et voté une résolution mémorielle.
This is a housing crisis. No pictures on the wall, nowhere to call our home anymore.
En Europe, Dublin reste une capitale de choix pour tous ceux qui cherchent un travail en Irlande, notamment dans le secteur des nouvelles technologies. Le problème, c'est que le logement ne suit pas du tout. Trouver une chambre ou un appartement relève du parcours du combattant. C'est un reportage de Julien Lagache.
Okay, so it's small, it's a studio. 19h, un soir en semaine, une quinzaine de personnes, celles arrivées en premier, ont déjà pu voir ce studio en rez-de-chaussée sur Grand Canal Street. Les visites se font par groupe de 6 ou 7 personnes à la fois. 900 euros sans les charges pour 20 mètres carrés, la propriétaire l'avoue elle-même, c'est un peu cher, mais elle se justifie, c'est parce que Google et d'autres géants du web sont installés tout près. Des sociétés qui attirent énormément de travailleurs issus d'Irlande ou d'ailleurs. John est originaire du nord de l'île et cherche justement un job dans le secteur, ainsi qu'un appartement depuis 3 mois.
Les gens voudraient avoir leur propre appartement plutôt que d'avoir à partager une maison. Ils préfèrent encore quelque chose comme cet appart, même si c'est petit et très cher. Ça reste bien situé. Et ce qui est normal ailleurs ne l'est pas ici. Voilà pourquoi c'est difficile de trouver un endroit qui propose plus qu'une chambre, avec la cuisine au pied du lit.
Ne connaissant personne à Dublin, John a dû prendre une location à la semaine en attendant de trouver un appartement. Et comme lui, ils sont des milliers à vivre de sous-location, de couchsurfing, d'Airbnb ou d'auberges de jeunesse, comme celle de Camden Street où Elena travaille à la réception.
La plupart de nos clients arrivent directement de l'aéroport et commencent à chercher un travail et un logement. Et ils me demandent souvent, où peut-on chercher ? Est-ce qu'il y a un site internet, un groupe Facebook, quelqu'un à qui s'adresser ? On essaie d'aider au mieux.
Le réseau est d'ailleurs ce qui marche le mieux par les groupes d'expatriés sur Facebook notamment, où chaque jour on lit de nouveaux appels pour trouver au moins une chambre ou des appels à l'aide. Il faut être à l'affût, réactif, comme sur le site de référence daft.ie, où une annonce peut susciter des milliers de vues et des centaines de mails. Une compétition rude qui a découragé Anya, chercheuse australienne en philosophie venue travailler à l'université de Dublin. Après une centaine de candidatures, une quarantaine de visites de studio pas toujours en bon état et souvent de longues files d'attente, elle a fini par baisser les bras.
J'ai fini par m'installer dans une maison d'hôte tout en continuant les recherches, mais elles n'aboutissent pas, alors j'ai négocié avec le propriétaire pour avoir un bail longue durée à prix réduit. Je suis très loin de l'université, mais pas autant que certains collègues qui préfèrent habiter Londres, Belfast ou Paris et ne viennent que quelques jours par semaine quand ils travaillent.
Le temporaire devenu permanent, un refrain assez connu dans la capitale irlandaise où, bien souvent, la colocation, voire voire le partage de chambres, sont le seul recours pour avoir un toit à tarif abordable. Mais l'attractivité de la ville, combinée à une hausse soutenue des loyers et à un parc locatif restreint, met les locataires sous pression. Les déménagements sont fréquents, tout comme les retours à la maison, comme l'a expérimenté Kevin à 29 ans.
On voit bien que de plus en plus de jeunes issus des classes moyennes et ouvrières restent longtemps chez leurs parents, presque jusqu'à 30 ans. C'est une évolution radicale, mais personne, surtout pas le gouvernement, ne semble vouloir y remédier.
De plus, Kevin, qui travaille comme artiste vidéo, estime qu'il y a de moins en moins de place pour les gens du monde culturel à Dublin, car les salaires ne suivent pas du tout l'inflation des loyers, ce que dénonce Peter Dooley, militant anti-austérité qui diffuse régulièrement des tracts sur le sujet dans son quartier de Rathmines.
Rien qu'ici à Rathmines, on trouve plus de 2000 maisons vides et on devrait pouvoir en faire des logements en obligeant les propriétaires à rénover ou à vendre plutôt que de les laisser faire sans les pénaliser. On est à moins de 2 km de St. Stephen's Green, du centre. C'est un quartier de choix. Et pourtant, à quelques mètres de cette maison, à l'angle, il y a des sans-abri qui mendient, alors qu'on pourrait facilement loger ici 8 ou 10 personnes décemment.
Le nombre croissant de sans-abri inquiète d'ailleurs les associations qui estiment qu'entre janvier et septembre 2016, il y a eu 60% de gens de plus à la rue, et de pointer à nouveau la crise du logement, d'où des suggestions telles que la transformation d'anciennes boutiques en logements ou, comme dans de nombreuses capitales européennes, un contrôle des loyers, une mesure inadaptée, estime Liam, propriétaire à Dublin depuis 25 ans.
Je ne pense pas que le contrôle des loyers puisse fonctionner parce que les prix sont déterminés par l'offre et par la demande. Donc si vous plafonnez les prix, la différence se fera au noir. Les gens proposeront plus que le maximum autorisé parce qu'actuellement la demande est trop élevée.
Offrir un loyer supérieur à celui demandé, la pratique existe en Irlande dans un climat d'intense concurrence. Liam estime donc que seule la construction massive de logements pourra dégonfler la bulle. Seulement, le secteur du bâtiment balbutie encore malgré la reprise économique. Les pouvoirs publics se sont engagés à construire plus et vite, y compris dans le logement social, mais les experts préviennent qu'il faudra sans doute attendre encore au moins un an et demi pour voir un progrès.
Les Italiens aiment particulièrement les animaux de compagnie, ce qui n'empêche pas la multiplication de chiens errants dans les villes. D'où cette initiative prise à Florence avec la mise en place d'un numéro d'urgence, Cécile Debarge.
Un numéro d'urgence pour signaler chiens, chats ou chevreuils en détresse. Mais qu'avaient donc en tête les Florentins lorsqu'ils ont mis en place ce projet unique en Italie ? La première réponse est simple, offrir aux citoyens ayant perdu leur animal un moyen de le signaler, voire de le retrouver. Et les maîtres de chats ou de chiens sont particulièrement nombreux dans le pays, détaille Enrico Loretti, responsable du projet et des services vétérinaires de Florence.
Dans une ville comme Florence, on a 400 000 habitants, 50 000 chiens environ et 70 000 chats. 70 000
gatti. Des chiffres dans la moyenne par rapport au reste du pays, à ce détail près qu'en Toscane, tous les animaux doivent être enregistrés et déclarés à l'administration depuis 1987.
En Toscane, il y a une loi qui oblige à enregistrer et identifier les animaux domestiques. Cela nous facilite la tâche pour restituer les bêtes à leurs propriétaires et pour tout animal restitué, les frais sont à la charge des maîtres. Donc en réussissant à rendre autant d'animaux à leurs maîtres, nos coûts sont finalement moindres.
Autre priorité définie par le service, identifier les animaux errants qui peuvent représenter un danger pour les habitants ou provoquer des accidents de la route, par exemple. Et pour les prendre en charge, même les forces de police ont été mobilisées, raconte Enrico Loretti.
Sur un millier de membres de la police municipale de Florence, près de 600 ont suivi une formation spécifique avec nous et sont en mesure de faire face à des situations où les citoyens sont protégés par leurs animaux. Ils connaissent les lois, ils savent comment se comporter. Il faut penser qu'il y a 15 ans, quand on a commencé ce programme, il y avait chaque année entre 15 et 20 policiers blessés par des animaux. Aujourd'hui, c'est un ou deux, et même pas tous les ans.
Rapidement, le nombre d'accidents impliquant des animaux est devenu ridiculement bas, au point d'étendre le projet aux alentours de la ville, où le danger vient cette fois des bêtes sauvages.
Florence est en Toscane, et la Toscane possède un grand patrimoine forestier. L'année dernière, on a récupéré environ 250 chevreuils, deux loups, plusieurs cerfs, et près d'un millier d'oiseaux.
Pour le moment, aucune autre région italienne n'a imité l'initiative toscane, même si l'intérêt est certain. Lors des tremblements de terre, par exemple, les services de la ville ont été appelés à de nombreuses reprises dans les Marques ou dans les Abruzzes pour aider les propriétaires d'animaux à retrouver leurs chiens ou leurs chats sous les décombres. Music.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Un petit peu de légèreté pour clore cette édition avec un groupe polonais.
Troupa, c'est un jeune quatuor polonais qui s'est formé à Gdansk au tout début de cette décennie et a publié à ce jour 3 albums. Le dernier en date s'intitule Headache. Il est déjà paru chez eux en 2015, mais ne franchit nos frontières que cet automne grâce à l'enthousiasme du label français. Ici d'ailleurs, séduit par ce rock psychédélique dense qui charrie à la fois quelques souvenirs vaporeux des années 70 et d'autres un peu plus frais, ceux du rock indépendant américain des années 90 qui faisait traîner ses guitares et ses voix avec nonchalance. Tout ceci actualisé de nos jours en Pologne avec aplomb et force de caractère. À découvrir sur ce disque de Troupa qui annonce déjà un nouvel album pour
Unbelievable, extrait du dernier album du groupe polonais Troupa, avec lequel nous refermons cette semaine. C'est Mathieu Salabert qui a assuré la rediffusion de cette émission, réalisée initialement par Françoise Grelot. Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page émission.
Sol majeur.